La France a bien du mal à trouver une solution à ce problème.
À partir de vendredi prochain, les choses vont sûrement changer.
Attendez une minute là.
Bonjour à vous. Un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles, tous les premiers mercredis de chaque mois, de 18h10 à 18h40, sur 3DFM. Un autre monde possible, c'est possible.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Attaque Pays d'Arles sur 3DFM, la 42e du genre. Alors aujourd'hui je reçois Andreas. Bonjour Andreas.
Bonjour.
Nous allons parler d'histoire des idées politiques et nous demander qu'est-ce que le libéralisme économique. En effet, avant le 19e siècle, le mot libéralisme désigne plus un mouvement politique qu'une pensée économique.
C'est cela. L'articulation, la jonction du libéralisme politique et du libéralisme économique se fait à partir du milieu du XVIIIe siècle et tout au long du siècle suivant.
Le libéralisme politique est un mouvement essentiellement juridique qui prône la défense des droits fondamentaux des individus et qui a pour base une limitation institutionnelle et juridique de l'action de l'État. Le libéralisme politique travaille au remodelage des rapports entre le souverain et les sujets. Qu'en est-il de la science économique avant le milieu du XVIIIe siècle ?
L'économie, en tant que rationalité, naît entre la fin du XVIe et la fin du XVIIIe siècle, au sein de ce qu'on appelle alors la science camérale. Si la science camérale a bien pour objet l'ensemble des moyens qui servent à la splendeur de l'État et au bonheur de tous les citoyens, l'économie politique est alors envisagée comme un instrument du pouvoir. Et en ce sens, l'État est plutôt pressenti comme ayant des prérogatives illimitées sur la place du marché. Fixer les tarifs douaniers, le prix du grain, les quantités de stock, etc.
Effectivement, on est alors bien loin d'un libéralisme économique. Mais dans ce contexte, pour que puisse naître un libéralisme économique, ne faut-il pas une séparation de l'État et de l'économie ? Je m'explique. Si le discours de l'économie politique peut soutenir, favoriser le principe d'une limitation de l'intervention de l'État en vue du bonheur et de la prospérité de tous, ne faut-il pas, qu'outre une extension de cette économie de marché, le discours économique s'autonomise par rapport à la science camérale ?
Et c'est ce qui va se passer au cours du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Peu à peu, le discours de l'économie politique va acquérir une rationalité propre, se détachant par là de la science camérale. Il s'agit alors de penser le rapport des hommes entre eux lorsqu'ils travaillent, consomment, se déplacent, etc., et ce, indépendamment de toute intervention de l'État qui viendrait en fausser la naturalité. C'est par exemple tout l'effort d'Adam Smith à cette époque.
Il y a donc un déplacement, mieux, un agrandissement de l'objet de l'économie politique lorsqu'elle tend à s'autonomiser. On passe, pour ainsi dire, de la place du marché qu'il faut réguler juridiquement à l'appréhension d'un système global où se lient des problèmes météorologiques, psychologiques, technologiques, etc.
Exactement. Et c'est ce que pointe très bien Michel Foucault dans Sécurité, territoire, population, au travers de l'exemple choisi parmi tant d'autres qui sont de cette époque, de la lettre d'un négociant sur le commerce du grain, de Paul-Louis Abeille, en 1763. Pour faire vite, le propos d'Abeille est de dire que la disette, problème majeur de la science camérale, n'existe pas. C'est une chimère. En effet, au lieu d'intervenir juridiquement sur la place du marché en fixant le prix du blé, les quantités stockables, etc., pour éviter la mauvaise fortune qu'est pour un prince une disette, il faut prendre en considération l'ensemble de l'histoire du grain et laisser faire.
Laisser faire, c'est ne pas trop intervenir. La régulation est autorégulation. Donc en cas de mauvaise récolte, le paysan vendra son blé au double du prix pour s'assurer un revenu équivalent. Certains vont stocker en vue d'un profit maximum quand le grain viendra à manquer. Mais les négociants des États voisins, informés de la pénurie, ne vont pas tarder à exporter vers la France. Celui qui stocke doit donc vendre avant l'arrivée des grains étrangers. Ainsi, le prix du grain s'auto-régule et il n'y a pas de disette, si l'État prend, au bon moment, des mesures pour freiner les exportations.
C'est exactement cela. En laissant jouer la volonté de profit, le désir de chacun, le marché, pris ici dans un sens global, se régule. Marché si global qu'il en est international. On vient de lier le libéralisme économique avec la mondialisation et un système d'information, puisque chacun doit être au mieux informé des intentions de l'autre pour maximiser les gains. Pour autant, libéralisme économique et politique ne sont pas encore liés. En effet, la liberté individuelle fondée dans des droits politiquement garantis, c'est-à-dire une problématique du pouvoir d'État en termes juridiques, et la liberté, pensée comme indépendance des gouvernés par rapport au gouvernement, ne correspondent pas encore.
Pas encore, mais le glissement est déjà repérable. À l'opposé d'un État omnipotent qui intervient juridiquement, on voit se dessiner l'image d'un gouvernement dont l'intervention est pensée à minima, en termes de pas trop, quoi. Et guidé par la connaissance précise, claire et distincte de ce qui se passe dans la société. Ce glissement est au centre de l'œuvre de Jeremy Bentham, juriste et philosophe de la fin du 18e, début 19e.
En effet, Bentham est célèbre pour être le penseur de l'utilitarisme. Le propos de Bentham est de dire que la fin du gouvernement est le bonheur du plus grand nombre. Le seul moyen pour inciter un individu à agir conformément à ce principe est son bonheur propre. Pour déterminer ce bonheur, on va se baser sur le calcul d'utilité comme comparaison des plaisirs et des peines. Le calcul d'utilité, accroissement des plaisirs ou des peines, fournit le critère d'évaluation des conduites individuelles, mais aussi des institutions sociales, des décisions politiques, du droit.
Donc l'État soumet son action au critère de l'utile. C'est ce critère qui limite son intervention et devient par là source du droit. Le droit ne se définit plus par un ensemble juridique qui garantit les libertés individuelles face à la puissance souveraine, mais trouve sa source dans un calcul d'intérêt. La loi n'est ainsi plus immuable, mais toujours soumise au calcul des plaisirs et des peines. L'État tombe de son piédestal, il n'est plus un principe transcendant, mais le régulateur des intérêts et du mieux-être de chacun, une sorte de gouvernementalité.
Et le nœud est noué, libéralisme politique et libéralisme économique se sont rencontrés. C'est donc dans la pensée libérale du 19e siècle, la connaissance des lois de régulation immanentes au marché qui limite l'intervention de l'État. Mais ce n'est pas l'argument des néolibéraux d'aujourd'hui, c'est même l'inverse. C'est l'impossibilité d'une telle connaissance qui motive le non-interventionnisme de l'État. Que s'est-il donc passé au cours du XXe siècle?
Nous le verrons après une petite pause musicale.
Quisiera tener a la parabola. Parabola. Quisiera tener a la parabola. Quisiera tener a la parabola. Parabola. Usar por el espacio en libertad, usar por el espacio en libertad. En libertad, como los pajarillos, en libertad, que nadie me pregunte a dónde va.
Camino sin fronteras quisiera ser.
Nous revoilà pour cette seconde partie de cette émission consacrée à l'histoire du libéralisme. Au début du XXe siècle, une nouvelle appellation va faire son apparition, le néolibéralisme.
Oui, l'appellation de néolibéralisme ne désigne pas un ensemble doctrinal unique et homogène, mais une pluralité d'écoles présentant des inflexions théoriques variées suivant les époques et les contextes nationaux où elles se forment et se développent.
Oui, on peut remarquer toutefois la naissance lorsqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, face au complexe industriel, financier et militaire cristallisé dans les États durant le conflit, face également à la révolution bolchevique en 1917 et aux premières mises en place, dès la fin des années 1910, de l'économie dirigée, des théoriciens s'emploient à critiquer, sur la base d'une rationalité économique, une telle planification étatique de l'économie.
L'essor du national-socialisme en Allemagne et la stalinisation de l'Union soviétique viennent fixer dans les décennies suivantes, notamment dans l'école de Vienne et l'école ordo-libérale, du nom de la revue Ordo, à Fribourg, à partir des années 20, l'un des leitmotifs des théories néolibérales. La planification étatique de l'économie, figure extrême de l'intervention de l'État dans la société, est aussi la voie directe au totalitarisme, à la négation de toute liberté individuelle, dont l'autonomie du marché est le socle de base et le dernier rempart.
Une telle thèse, qui ne s'embarrasse qu'inégalement d'études historiques et politologiques précises sur les phénomènes concernés, sera ravivée par le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, puis par l'influence non moins traumatisante, semble-t-il, de la doctrine keynésienne dans la période de reconstruction, que l'on soupçonne de réintroduire au nom de la reconstruction des libertés démocratiques et économiques, par les politiques d'assistance et de plein emploi, par les politiques d'intervention sur l'allocation des ressources, sur le niveau d'épargne et sur l'équilibre des prix, des formes d'intervention étatique qui risquent à nouveau de les compromettre.
À travers les différentes cibles visées, le socialisme soviétique, le parti État nazi, le New Deal américain des années 30 ou le keynésianisme anglais d'après-guerre, l'invariant de la critique porte sur le développement d'une économie planifiée et centralisée autour d'un appareil administratif et gouvernemental prenant l'essentiel des décisions dans l'ordre de l'économie.
Oui, et on en arrive à la pensée de Friedrich von Hayek, de l'école de Vienne. Celui-ci distingue la rationalité technologique de l'État planificateur, selon son expression, et la rationalité économique. Alors que la rationalité technologique de la planification étatique ou centralisée implique une connaissance tendanciellement exhaustive d'un système supposé clos, de manière à y intervenir suivant un objectif positif, déterminé, la rationalité spécifique économique se fonde au contraire dans un principe d'incertitude ou d'incomplétude de l'information.
Est économique en ce sens un problème qui ne peut être résolu par une pensée unifiée et unifiante qui appréhenderait exhaustivement la situation comme un système clos manipulable, mais seulement par l'intersection de multiples agents qui manipulent une quantité d'informations excédant ce que peut appréhender n'importe quel individu ou groupe de ce système, fût-ce un membre d'un groupe de l'État planificateur, qui est un organe social parmi d'autres.
Alors que la rationalité technologique suppose des conditions statiques d'ordre et d'homogénéité, qu'un entendement surplombant pourrait appréhender en totalité pour en prévoir les évolutions et les prévoir en les réglant par avance, la rationalité économique repose au contraire sur un déséquilibre perpétuellement rattrapé. Elle implique de concevoir l'équilibre économique comme un équilibre instable, sans cesse corrigé à chaque instant par les millions d'individus qui prennent des décisions aussi rationnelles que leur permettent les informations dont ils disposent, ce qui implique un cadre ou un système où les informations sont immédiatement accessible à tous les individus.
D'où la nécessité d'une décentralisation de la décision économique, qui n'invalide pas toute planification, mais qui en change la signification, comme le signale Hayek. Je cite « Si nous admettons que le problème économique de la société est principalement une question d'adaptation rapide au changement dans des conditions spécifiques de temps et de lieu, il devrait s'en suivre que les décisions finales soient laissées à ceux qui sont familiarisés avec ces conditions, qui ont directement connaissance des changements significatifs et des ressources immédiatement disponibles permettant d'y faire face. Nous ne saurions envisager de résoudre ce problème en commençant par communiquer tout ce savoir à un bureau central qui, après l'avoir intégré, donnerait ses ordres. Il nous faut le résoudre par une certaine forme de décentralisation. »
Oui, et dans ce cadre, c'est le système des prix qui constitue le dispositif signalétique impersonnel qui indique par ses variations aux agents les conduites à adopter et qui permet, aux yeux de Hayek, d'articuler une rationalité des décisions et des conduites des agents sociaux et économiques au-delà des objectifs immédiats qu'ils se fixent.
Le néolibéralisme hayekien opère une inflexion nette par rapport à la démarche de l'économie politique classique qu'adoptaient les théoriciens libéraux du XIXe siècle. Ces derniers faisaient de la connaissance des lois de régulation immanente du marché le principe positif d'une limitation des interventions de l'État dans la société civile. Hayek fonde cette limitation dans l'impossibilité, pour une telle connaissance macroéconomique, de pouvoir prétendre à une appréhension exhaustive du champ social, par une position de surplomb fictive conduisant à ignorer les conditions réelles d'une régulation microéconomique fondée dans l'incomplétude des informations et dont l'ordre macroéconomique n'est que la résultante globale.
Enfin, on peut évoquer le courant monétariste de l'école de Chicago représenté par Milton Friedman. Les monétaristes considèrent que, par exemple, comme le signale Milton Friedman, la monnaie est une chose trop importante pour la laisser aux banquiers centraux. L'inflation doit être contrôlée par le volume des émissions de monnaie de la banque centrale. Il défendit également le retrait du gouvernement du marché d'échange et promu les taux de change flottants. Donc c'était quelqu'un qui était proche des républicains. Il fut notamment le conseiller de Nixon et de Reagan. Plus récemment, pour l'anecdote, le gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger, déclarait « Les deux personnes qui ont le plus influencé ma pensée économique sont Milton Friedman et Adam Smith. »
1, 2, 3, 4. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire t'illumine. Une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Plan ministère des affaires populaires. Au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrières. Rando, tous des frères, plein de repères. Jacques Brelpont, Marley, Aznav, la Pépère. Notre art populaire, musique d'ici et d'ailleurs. On en a fait un ministère pour un monde meilleur. Influence, d'influence, de sonorités différentes. De Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche. Du bon son pour tout le monde, du Joe Dernier jusqu'au grand-père. L'album populaire vers son troisième millénaire. Juste pour faire bouger les consciences, vasser les préjugés. Rien à faire qu'à entrer dans la danse, laisser aller. À l'heure du repli communautaire à l'heure d'une troisième guerre. Aux ordres on reste réfractaire, attitude salutaire. Que ceux qui jouent avec les peurs pyromanes incendiaires prennent ce morceau en plein cœur comme une balle populaire.
Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire t'illumine. Une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire t'illumine. Une bombe, une balle populaire.
Salam, moi c'est Jazz le maquisard, petit fils de Mujahid. Le montagnard, sans hymne, sans drapeau, sans nation ni patrie. Hybride culturel entre Occident et l'Algérie. Contre la haine et l'injustice, j'ai pris les armes. Pour la mémoire de mon peuple, j'ai pris les armes dans ma cible. Dictateur et colonisateur, répresseur, esclavagiste. Dans mon viseur, en guerre, contre bavure, police, raciste. En guerre, contre inégalité, pouvoir, fascisme. Mon hip-hop, j'écris qu'on en prend, un drapeau blanc. Soldat pour la paix, je rime pour les innocents. Contre les dictatures, les embargos, les colonies. Les bombardements, les invasions, les tyrannies. J'rime pour la révolte, les coups d'état, les rébellions, les mutineries, les résistances et l'insurrection.
Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire t'illumine. Une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire t'illumine. Une bombe, une balle populaire.
Violon accordé, on grosse caisse, chat les caisses claires. C'est clair, frère, ça va jaser dans les HLM et les chaumières. Et dans nos concerts, des têtes de Mouloud et de Robert. Tous des bounoules, des négros, des chintok, des chabert. Une seule et même musique, un seul et même bon son. Bon sang, bonsoir, ça faire pour la révolution. Que les choses bougent enfin, que les gens bougent ensemble. La connerie humaine divise quand notre musique rassemble.
Ça vient d'en bas, du sous-sol, du fond de la cave. Tu fais maison, l'artisanat, la sonde brave. Un fennec, du bitume, du pavé, sale crevard. Les tontons, flingueurs, du macadam, du boulevard. Les poètes de l'asphalte, les artisans du béton. Chercheurs de rimes, remplis de ballons téflon. Je t'envoie tel un kamikaze révolutionnaire. Une mine, une bombe, une balle populaire.
Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire telle une mine. Une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire t'illumine. Une bombe, une balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire t'illumine. Une bombe, une balle populaire.
Voilà, c'est terminé pour cette dernière émission de l'année sur 3DFM. Donc elle sera rediffusée le 19 décembre à 20h et on peut également l'écouter sur le site de la radio, rubrique Attaque Pays d'Arles. Donc en décembre, Attaque tiendra son assemblée générale le lundi 9 à 19h à la Maison de la Vie Associative, où nous ferons le bilan des actions menées par Attaque en 2013 et partagerons le verre de l'amitié. Attaque tiendra également son stand le 14 décembre sur le marché paysan à l'esplanade de Charles de Gaulle. Et voilà, nous vous souhaitons de passer de très joyeuses fêtes et vous donnons rendez-vous en 2014. Au revoir.
Au revoir.
C'était Un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles. On se retrouve le mois prochain, le premier mercredi du mois, de 18h10 à 18h40, sur 3DFM. À bientôt.
Bon, voilà. C'est bon.
Bon, c'est bon quand même.